France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Cassandre Puel, et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. C'est le deuxième volet de notre géographie sensible des deltas, ces espaces perdus entre les bras d'un fleuve et l'étreinte de la mer. Nous parlions hier de celui du Danube, transformé par la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le delta du Nil, la conquête du désert.
Toute la côte est menacée et le changement climatique accélère le phénomène en augmentant la pression de l'eau de mer. Comme cette eau pousse, elle facilite l'infiltration dans les terres. L'eau passe plus facilement qu'avant.
La terre avait déjà connu la sécheresse, mais nous n'avions jamais eu de problème de salinité du sol ou de problème d'eau. C'est dû à la hausse du niveau de la mer et la région de Rosette est proche de la mer. Alors nous avons commencé à planter des manguiers car ils sont plus résistants à la soif.
La terre est trop salée. Il faut que je parte, que je trouve un endroit où travailler ailleurs. Ici, c'est terminé. La terre est abîmée, les sols sont en train de mourir.
Du delta du Nil, il faut d'abord imaginer ce qu'il fut sous les pharaons, le delta et ses étangs, ses crocodiles, ses cobras, des hippopotames qui envahissent les champs de lin et que les paysans doivent chasser comme ils peuvent. Un pays riche en lacs, en étangs, en marais, en terres cultivées et des systèmes pour éponger le trop-plein des eaux de crue quand le Nil déborde. Puis le paysage a changé, s'est transformé progressivement en steppe plus grise. Les riches pâturages ont été remplacés par des plantes salines, un peu maigrichonnes parfois, mais une région toujours fertile, irriguée par les eaux du fleuve. Aujourd'hui, le delta du Nil est toujours la principale zone agricole du pays. C'est aussi la plus peuplée, puisque la moitié de la population égyptienne y vit. Les vieilles terres sont devenues mitées par l'artificialisation des sols. Et pour répondre à cette pression urbaine, les autorités égyptiennes ont décidé de déplacer les activités agricoles, en tout cas de les pousser jusqu'aux zones désertiques, en acheminant toujours plus loin les eaux du Nil. Lancé en 2021 par le général Sissi, le projet Nouveau Delta veut développer les cultures par irrigation sur le flanc ouest du Delta. Une conquête du désert qui ne tient pas compte de la baisse du débit du Nil, de la salinisation des eaux et de l'érosion de la côte. Bonjour Delphine Acloc.
Bonjour Julie Acon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie, actuellement chargée de mission au Centre d'études et de prospectives du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire à Paris. Votre thèse porte sur les recompositions agricoles en Égypte. Elle a été publiée chez Cartala l'année dernière sous le titre « Conquérir le désert, recomposition des acteurs et des territoires agricoles en Égypte ». Bonjour Ouel Rachid.
Bonjour.
Merci beaucoup également d'être avec nous. Bienvenue dans ce studio. Vous êtes doctorant à l'Institut français de géopolitique, l'IFG. Vous travaillez sur les ressources naturelles et les conflits d'aménagement et vous avez largement contribué à l'Atlas de l'Égypte contemporaine qui est apparu en 2020 aux éditions du CNRS et quelques années plus tard pour l'édition arabe. Alors merci à tous les deux d'être avec nous pour parler de ce delta du Nil, zone étrange et mystérieuse que le delta. Et on disait hier, Delphine Acloc, combien les deltas sont souvent des lieux indéchiffrables avec leur enchevêtrement de canaux, d'îlots que seuls les riverains souvent connaissent et maîtrisent. Est-ce que c'est encore plus illisible quand on parle du plus grand fleuve du monde ?
Alors le delta du Nil, c'est d'abord un delta très anthropisé. Et c'est vraiment une des caractéristiques de ce delta qui est un des seuls à être en milieu aride, mais qui est en fait un centre de peuplement, un centre d'activité, l'agriculture, mais pas seulement, hein, l'industrie également est très présente. Mais peut-être avant d'aller dans ce détail, je vous propose de faire un peu varier les échelles. En tant que géographe, c'est important. Et de regarder ce delta d'abord depuis le ciel et même depuis l'espace. en regardant une vue satellitaire, en fait, on voit ce triangle vert, triangle à l'envers, donc la lettre delta qui est inversée et qui vient finalement achever une longue ligne, la vallée du Nil, qui trace son chemin entre les étendues sahariennes et qui donne naissance à ce cœur vert, ce centre pour l'Égypte, un cœur agricole, un cœur urbain, un cœur industriel, on va y revenir. Et c'est là où les eaux du Nil viennent trouver leur chemin vers la mer avec deux branches principales, hein, la branche de Rosette et la branche de Damiette. Rosette et Damiette étant les deux villes estuariennes où les eaux du Nil réussissent à rejoindre la Méditerranée.
Et on fera un focus, un zoom sur la ville de Damiette d'ailleurs dans notre à la fin de l'émission, dans notre traditionnelle séquence focus justement, parce que le delta du Nil, il commence où exactement, Delphine Aclock ?
Alors, dans le vocabulaire des géographes et de la géographie physique, on parle de l'apex, c'est-à-dire le point, le haut du triangle, il est à environ 20 km du Caire, un endroit qui s'appelle Kanater. Et en fait, à partir de là, le Nil va rejoindre la mer lentement, parce que la pente est faible en fait. On a 18 mètres de dénivelé entre cet apex et la Méditerranée. Et aussi, donc j'avais dit que j'allais faire varier les échelles. Donc en fait, peut-être ce qui est aussi important à voir, c'est que on a l'impression que c'est un bloc, c'est une unité, ce delta, ce triangle. Mais il est nécessaire d'aller voir plus aux échelles locales pour comprendre les singularités spatiales d'un espace où eau, terre et activité humaine façonnent les paysages. Et donc on a une diversité de territoires du sud, donc de l'apex vers la mer. D'abord, il y a l'ombre de la mégapole Kérot, hein, qui est fondamentale. Et puis, progressivement, on a des villes qui viennent faire le relais de la ville du Caire et qui sont des centres majeurs avec 500, 600 000 habitants, hein, Tanta, Mahala. Et puis, on va progressivement atteindre la mer avec cet espace qui est un espace de lagunes, des lacs qui sont au contact de la Méditerranée et où finalement cette interface eau salée venue de la mer et eau douce venue de la terre et des hauts plateaux éthiopiens et des grands lacs africains, eh bien, vont se rencontrer avec des enjeux majeurs.
Et avec un mélange entre eau du fleuve et eau de la mer d'autant plus fort que justement le débit du Nil est très faible, puisqu'on parlait du dénivelé qui est très bas entre le haut du delta et la mer Méditerranée, mais même bien avant, où El Rachid, à partir du barrage d'Assouan, le débit du fleuve est très lent.
Oui, oui, tout à fait. En fait, entre le barrage d'Assouan et la mer, vous avez à peu près 1000 km, et c'est à peu près 200 mètres de dénivelé, donc c'est pas énorme du tout. Le dénivelé est beaucoup plus important au niveau de l'Éthiopie, bien sûr. Et ça a des conséquences aussi de géographiques, pour rejoindre ce que disait Delphine, pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, parfois le dénivelé est plus fort sur les rives du Nil, en fait, ce qui explique que ça s'étale. Et donc, quand on arrive après l'apex, c'est le moment, en fait, où le débit est tellement faible que pendant longtemps, c'était pas un fleuve domestiqué comme aujourd'hui. Donc, vous aviez d'autres branches du Nil, vous en aviez 5 ou 7, ça a beaucoup bougé. Et du coup, le delta, c'est un peu cet étalement de l'eau, mais qui allait aussi avec l'amont. Pour rebondir peut-être sur la partie un petit peu historique,
oui, la partie historique, oui, simplement parce que vous parlez de 5 ou 7 branches, que le nombre de bras du delta a évolué au cours des années. Quand Hérodote séjourne en Égypte vers 450 avant notre ère, il visite Memphis et le delta du Nil. Il parle d'un delta à 5 branches. Il y en avait 7, mais il considère que 2 ne sont pas naturelles parce qu'ils ont été creusés par l'homme. Quelle description fait Hérodote à ce moment-là de ce delta du Nil ?
Oui, alors il faut imaginer aussi que, alors Hérodote parle de delta, c'est comme ça que l'appelle ses contemporains cette zone en fait. Il faut imaginer, c'est un peu ce qu'a dit Delphine, c'est la lettre grecque qui est inversée en fait par rapport à une carte nord-sud, sauf que les Grecs venaient de l'autre côté de la Méditerranée, donc ils commençaient au moment où le delta était le plus large et qui s'enfonçait vers les terres en fait. Donc c'est un V inversé. Et du coup, Hérodote donne sa fameuse phrase « L'Égypte est un don du Nil », c'est à la fois à cause de l'eau mais c'est aussi à cause du limon en fait. D'ailleurs, une partie des Grecs considérait que l'Égypte, c'était juste le delta, pour le coup. Dans ce que dit Hérodote...
Vous dire le don du Nil, en l'occurrence, ce ne sont pas que les eaux du Nil, c'est vraiment les sédiments qui sont drainés dans ce fleuve.
C'est ça. En fait, ces sédiments, ils viennent donc d'Éthiopie. C'est eux qui donnent cette couleur noire à ce qu'on appelle les anciennes terres, en fait, et du coup, qui se sont étalées, pour le coup, et qui, par ailleurs, donnaient une extrême fertilité, en fait, à cette zone. Donc c'est pour ça. Donc il y a bien sûr le don du Nil à la fois parce que c'est l'eau, parce que c'est la crue, et la crue amenant le limon avec elle, pour le coup.
Vous parlez en effet de zones déjà très fertiles, mais on est aussi à l'époque dans des marais qui forment une sorte de barrière naturelle qui protège l'Égypte. C'est impossible pour des envahisseurs d'arriver là, et quand on s'enfonce dans les fonds boueux, qu'on a des forêts de roseaux qui coupent la vue à distance, qu'on a cette impasse de lacs, de chenaux inconnus et d'îlots flottants, j'imagine que le delta du Nil, au départ, est une forme de barrière naturelle, de protection de l'Égypte. Est-ce que c'est le cas, Delphine Aklok?
Je pense qu'en fait, ça a été quand même un haut lieu de conquêtes diverses et que voilà, le delta du Nil étant encadré par des espaces désertiques, ça a été aussi un espace assez facile à traverser et par lequel on pouvait arriver par différents endroits et pas forcément par la Méditerranée. Et donc en fait, cet espace largement traversé, largement mis en valeur, mais aussi largement aussi à certains moments de l'histoire, laissé un petit peu aux aléas et aux dynamiques naturelles, a vu des avancées et des reculs, des inondations et des mises en valeur. Enfin voilà, c'est vraiment un espace de la mouvance.
Ouais. qui ne cesse de changer. C'est ce qu'on disait hier sur le delta du Danube. Les deltas sont des régions qui ne cessent d'évoluer au fil du temps. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Ouel Rachid?
Oui, en fait, l'intérêt aussi pour un envahisseur d'un delta, c'est qu'aussi il y a les eaux du Nil qui sont très importantes. Donc pour remonter par bateau, et en plus comme la pente n'est pas très importante, c'est possible. Mais à l'inverse aussi, les crues du Nil, on peut servir aussi de barrière naturelle pendant des invasions aussi. Pour le coup, ça a été le cas à plusieurs reprises. Pour le
Quand Hérodote visite le delta du Nil au 5e siècle, donc avant notre ère, il n'y a aucun port naturel qui s'impose. Alors sur la côte est sablonneuse, Alexandre le Grand érigera Alexandrie un siècle plus tard seulement. Donc on ne parle pas encore de zones urbaines dans le delta, mais des zones agricoles qui existent déjà. Quand le delta du Nil a-t-il commencé à faire l'objet d'installations en pensant agriculture et récolte, Ouel Rachid?
Dès l'Antiquité, vous avez des exploitations agricoles et vous avez par exemple Pi-Ramsès, qui était la capitale des Ramsésides, comme son nom l'indique, pour le coup. Donc vous avez toujours une mise en valeur, mais qui était plus ou moins régulière et aléatoire. C'est un peu ce que disait Delphine. Il y a eu des moments, en fait, où c'était un petit peu délaissé, pour le coup. La dernière phase de bonification et de mise en valeur, elle arrive au 19e siècle, en fait, avec la conquête, enfin, la prise du pouvoir en Égypte par Mohamed Ali, en fait.
Et à l'époque, parce que comme aujourd'hui, en 2025, vous parlez d'un front pionnier qui ne cesse d'avancer cette fois vers le désert, mais à l'époque, on avait un front pionnier d'agriculture qui avançait dans les marais. Il fallait dompter les marais, Delphine Aklok, pour cultiver là.
Alors, en fait, les marais sont vraiment à la périphérie nord du delta. Mais sinon, ce qui me semble important, c'est de voir comment, finalement, au XIXe siècle, avec Mohamed Ali, on a une conquête et modernisation de cet espace agricole par le contrôle de l'eau et une véritable mission hydraulique, finalement, de cet état à partir du début du 19e siècle. Le règne de Mohamed Ali, c'est 1805-1848. Et puis, ça va s'accélérer dans la seconde moitié du 19e siècle. Et ceci jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a cette mission hydraulique qui fait, finalement, du delta une sorte de machines hydrauliques avec à l'intérieur de multiples infrastructures, donc des canaux, des pompes et tout un ensemble d'artefacts en fait qui permettent la mise en culture et surtout le contrôle, l'acheminement, la distribution d'une eau qui devient à partir du 19e siècle une eau que l'on va être en mesure d'amener de façon pérenne. Alors ça va pas être complet au départ, cette pérennité, c'est-à-dire qu'on va s'affranchir doucement vis-à-vis de la crue par la construction d'un certain nombre de barrages dès le 19e siècle, mais des barrages qui vont être souvent insuffisants pour véritablement être en mesure de s'affranchir de la crue estivale. Et c'est véritablement, en fait, avec l'inauguration du haut barrage d'Assouan, qu'on a une irrigation pérenne et la capacité pour l'Égypte de contrôler totalement l'allocation de l'eau, l'acheminement de l'eau, indépendamment de la saisonnalité de cette crue.
Il y avait un premier barrage d'Assouan construit au tout début du XXe siècle qui a permis de réguler le débit du fleuve, même d'aménager les berges du Caire, de construire de nouveaux quartiers. Mais celui dont vous parlez et dont on parle en général, c'est le haut barrage d'Assouan, inauguré ici en 1966.
Assouan, c'est le grand défi. On édifie la grande muraille d'Égypte, 5 km de long, 45 millions de mètres cubes, 17 fois le volume de la grande pyramide de Khéops, plus de 5 milliards de francs pour régulariser définitivement les crues du Nil, accroître de moitié les revenus de l'agriculture et, grâce à l'énergie électrique, doubler la production industrielle. Ces porteurs de seaux et de piquets, ces ouvriers et ces manœuvres innombrables, ce sont le petit paysan nubien de la haute vallée. Ils durent construire les pyramides, mais le barrage leur vaut pour la première fois un salaire.
C'est l'inauguration. Sera quelques années plus tard. Ici, l'archive date de 1966. On est encore en plein travaux du barrage d'Assouan qui a nécessité des travaux gigantesques, on n'ose pas dire pharaoniques en l'occurrence. Comment ce projet de Nasser, en l'occurrence, ou El Rachid, a transformé la physionomie de la vallée du Nil, mais aussi de son delta, et transformé jusqu'à la nature de l'eau quand elle arrive dans le delta après un trajet de 6650 km. Qu'est-ce qu'elle draine avec elle de ce long voyage depuis les sources du Nil Blanc au Rwanda, celle du Nil Bleu en Éthiopie et depuis l'endroit où ces deux fleuves se rencontrent au Soudan jusqu'aux rives de la Méditerranée, en passant donc par ce barrage d'Assouan, comment l'eau va changer de nature au fil de son voyage?
Oui, en fait, c'est avec la construction du barrage d'Assouan, vous n'avez plus de crue. Tout l'approvisionnement en eau se passe à ce moment-là et toute l'organisation de l'eau dépend du barrage, du haut barrage d'Assouan, pour le coup. Le premier extrait que vous avez passé au début sur l'érosion des terres, la salinisation, c'est des conséquences qui étaient sues à l'époque du barrage d'Assouan, puisque vous avez plus de crues pour apporter du limon, vous n'avez plus que de l'érosion. Vous avez un débit plus faible, parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'expliquait Delphine, le débit a été régularisé, en fait. Et il est utilisé tout au long de l'année, en fait. Donc, ce qui change fondamentalement, c'est qu'on avait un pays qui était, moins parce qu'il y avait déjà des aménagements, mais qui était quand même en partie inondé une partie de l'année. C'était un tiers de l'année pendant la période pharaonique, l'inondation des eaux du Nil, qui inondait, en fait, la vallée et le delta. Donc, ça change déjà les aménagements qui sont possibles de réaliser. Vous l'aviez dit, en fait, une partie du Caire a été construite à partir de ce moment-là. La partie occidentale du Caire, par exemple, elle ne démarre que au 19e siècle, en fait. Elle n'existe pas du tout avant. Les pyramides sont très très loin par rapport au rivage actuel, pour le coup. Donc ça a changé ça. Et en fait, alors, outre d'autres avancées qui ont permis le haut barrage d'Assouan, par exemple une électrification accrue du pays, ça a été vraiment de régulariser et de pouvoir amener l'eau au moment où on voulait. Parce que pendant longtemps, la part essentielle de l'eau qui arrive en Égypte, c'est l'eau de la crue, quand il y a des bonnes années. Mais l'eau de la crue n'arrive pas forcément au moment où on en a besoin pour l'agriculture. Donc il faut pouvoir gérer ça. Et en plus, ça ne permettait pas de faire des cultures d'été, par exemple. Quand on a besoin de cultures d'été comme le coton, pendant très longtemps, c'est plus trop le cas aujourd'hui. C'était des cultures d'exportation depuis Mohamed Ali. Ce barrage permet aussi de faire ça et d'avoir plusieurs récoltes dans l'année, en fait.
Donc pendant des siècles, l'Égypte a vécu, selon un cycle en trois saisons, l'inondation, les semailles, la récolte. Le barrage d'Assouan va littéralement changer le rapport même des Égyptiens au temps. C'est ce que vous avez écrit, Wael Rachid, dans un article. C'est même plus un fleuve sauvage, en fait, le Nil, à partir de ce moment-là. Et comment ce rapport au temps va changer dans la société entière?
Oui, il est complètement domestiqué. Et la grande révolution qui avait commencé avec Mohamed Ali, en fait, cette irrigation, c'est qu'avant, on avait une agriculture de décrue, c'est-à-dire, en fait, elle était même aménagée comme ça, c'est-à-dire vous aviez des bassins de rétention de l'eau où vous aviez une partie du limon justement qui se disposait, etc. Le fait d'avoir un barrage permet d'avoir une irrigation pérenne, régulée, et du coup qui apporte d'autres soucis. Par exemple, vous n'avez plus de limon, donc il faut mettre des intrants, par exemple. Le rapport au temps, il change aussi parce que vous avez une année un peu plus comme en France, entre guillemets, c'est-à-dire, bon, l'année, elle est plus par rapport au mois, en fait, et pas tellement à la crue du Nil. Ça change quand même beaucoup de choses, un tiers de l'année.
Des intrants aussi, parce que au fil de son périple, l'eau se charge de tous les, alors les intrants chimiques, mais aussi les pesticides qui sont utilisés dans l'eau pour les irrigations, d'autant que depuis les années 70 à peu près, l'Égypte réutilise une partie de l'eau pour des irrigations pour d'autres cultures, mais à chaque fois elle se charge. On comprend l'idée d'économiser de l'eau qui est louable, mais à chaque fois l'eau se charge en intrants et en pesticides. Quand elle arrive dans le delta du Nil, cette eau-là est déjà est beaucoup plus pollué qu'ailleurs, Delphine Aklok.
Alors, effectivement, il y a un vrai enjeu de pollution de l'eau à l'intérieur du delta du Nil. Ces pollutions, en fait, sont multiples. Ce sont les pollutions issues de l'agriculture, qui s'est beaucoup intensifiée, je vais y revenir juste après, mais aussi les pollutions urbaines, les pollutions industrielles. En fait, on a une diversité des eaux usées qui sont un vrai enjeu pour l'Égypte depuis les dernières décennies, et ça s'est beaucoup accéléré avec cette question du traitement de l'eau usée, la construction d'énormes stations de traitement afin d'assurer une eau qui serait moins polluée pour être réutilisée. Mais avant de revenir à cette réutilisation des eaux, il me semble important aussi de revenir sur cette intensification de l'agriculture, et puis aussi sur votre question sur le rapport au temps. En fait, la dernière moitié du XXe siècle et puis jusqu'à aujourd'hui, en lien avec l'inauguration du haut barrage d'Assouan et puis la mise en place d'un processus de libéralisation économique, l'arrivée de nouvelles productions, sont indissociables en fait d'un nouveau rapport à l'eau, d'un nouveau rapport aux rotations de cultures. Et en fait, aujourd'hui en Égypte, on produit 2 voire 3 cultures par an dans le delta du Nil. Et puis, on est très dépendant de l'ouverture et de la fermeture des canaux. Et ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental pour comprendre l'agriculture des paysans dans le delta du Nil. C'est-à-dire que en hiver, par exemple, il va y avoir 5 jours d'ouverture, puis 10 jours de fermeture du canal. En été, ça peut être 4 jours d'ouverture, 6 jours de fermeture, et c'est variable. Et cela va donner naissance à des situations de pénurie pour certains agriculteurs qui sont mal situés sur le canal, qui vont, lorsque l'eau est présente, sur-irriguer les jours où l'eau est disponible. Et puis cette intensification agricole, c'est aussi l'utilisation d'engrais de façon importante, puisque comme vient de le dire Well, en fait, il y a plus ces sédiments, ces limons fertiles qui se déposent dans le delta. Donc, il faut compenser par les intrants chimiques. Et tout cela va se retrouver dans les eaux de drainage. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre, c'est-à-dire que les agriculteurs du delta du Nil, ils utilisent les eaux de drainage, donc polluées par les intrants agricoles, pour pouvoir irriguer leur production, parce que les eaux douces ou les eaux fraîches, entre guillemets, ne sont pas suffisantes. Et il y a tout un système de mélange entre eau de drainage et eau douce qui est un élément majeur pour comprendre l'irrigation du delta du Nil aujourd'hui.
Et aussi parce que, donc, côté amont, ces eaux sont chargées de pesticides, et côté aval, elles sont chargées en sel de plus en plus. C'est aussi pour ça qu'on commence vraiment à avoir des conflits agricoles dans le delta.
Oui, alors peut-être aussi sur les pollutions, rappelez que juste avant l'entrée dans le delta, vous avez le Caire qui est une énorme agglomération de plus de 20 millions d'habitants, et au sud de Caire vous avez la ville industrielle de Helouan, en fait, pour le coup. Donc déjà, à arriver dans le delta, les eaux sont déjà très très polluées pour le coup, ce qui s'ajoute à tous les phénomènes que décrivait Delphine pour le coup. Et vous avez le problème de la salinité, donc qui est lié en fait à un débit qui est très faible, donc l'eau de mer remonte, plus l'élévation de l'eau de mer. Plus des choix politiques un peu compliqués. Par exemple, pendant longtemps, le riz était une culture qui permettait de limiter ce phénomène de salinisation des terres, en fait.
On parle de lessiver les terres avec les cultures de riz. Ça les nettoie, en quelque sorte.
Alors, il y avait le lessivage par l'eau qui venait aussi avec les crues, en fait. Donc, encore une fois, le haut barrage de Assouan a apporté beaucoup de régularité et a permis aussi d'éviter des périodes de grandes sécheresses, par exemple dans les années 80. Donc, c'était le moment un peu clé pour montrer qu'il y avait une utilité. Mais il y avait il n'y a jamais que des avantages, aussi ces inconvénients-là, dont celui de ne plus lessiver suffisamment les terres. Et le riz est une culture qui permettait de répondre à cette problématique d'une certaine manière. Sauf que vous avez un souci, c'est que l'intensification de l'usage de l'eau dont parle Delphine fait que vous avez un rationnement de l'eau de plus en plus important, parce que vous avez une population qui augmente avec des besoins importants, et que le riz, comme d'autres cultures, consomme énormément d'eau. Donc vous devez faire des choix entre des cultures qui protègent de la salinisation, mais en même temps qui consomment beaucoup d'eau.
On a de l'eau pendant 4 jours, puis elle est acheminée autre part les 3 jours suivants. C'est à ce moment-là qu'on a peur. Il suffit qu'au bout de ces 3 jours, l'eau n'ait ne serait-ce qu'une heure de retard et tout le monde est inquiet. On pense ne plus jamais avoir d'eau. Ils veulent nous réguler, mais ils ne comprennent pas comment ça marche. Alors quoi, quelqu'un a besoin d'eau et on lui dit non ? Non, ils ne peuvent pas nous prendre notre eau.
Il, en l'occurrence, dans la bouche de cet agriculteur interrogé par TV5 Monde, ce sont les autorités égyptiennes, puisque ces canaux sont administrés par l'État via le ministère des Eaux et des Irrigations. Est-ce que ça veut dire que tout est totalement contrôlé, qu'il n'y a pas une écluse qui s'ouvre ou se ferme sans que l'État égyptien soit au courant, Delphine Aklok ? J'ai employé le mot d'écluse, peut-être qu'il n'est pas juste. Si, on peut parler d'écluse.
On peut utiliser ce mot, effectivement. Oui. Après, on peut parler de porte, tout simplement, oui. de ces canaux. Alors, on a effectivement, depuis le 19e siècle, une centralisation croissante et très forte de ce système d'irrigation, avec un ministère, comme vous venez de le citer, de l'irrigation et des ressources en eau, organisé autour de toute une hiérarchie, de l'ingénieur jusqu'au fonctionnaire subalterne, qui va être en charge d'ouvrir et de fermer ces portes avec l'arrivée de l'eau dans les canaux. Néanmoins, derrière ce système qui semble effectivement extrêmement centralisé, eh bien, il faut bien voir qu'il y a des marges, des interstices, des lieux où il va y avoir des négociations entre le paysan, les paysans et ce fonctionnaire, le bahar, qui ouvre et qui ferme les portes. Et également, il y a tout un système de projets, en fait. Hein. Enfin, c'est pas un système, mais une série de projets d'irrigation, projets de drainage, qui ont été financés par les institutions internationales et les banques de développement, qui sont venus, eh bien, ajouter une sorte d'échelle de gestion, c'est-à-dire que, pas de gestion, mais en tout cas de programmation en lien avec le ministère de l'Irrigation, et qui ont eu beaucoup d'impact aussi sur la façon dont l'eau est répartie et est gérée. Et juste peut-être aussi pour ajouter ceci, depuis les dernières décennies, on a voulu, enfin, en tout cas les Égyptiens en lien avec les institutions internationales, accroître la participation, la gestion locale, avec des associations d'usagers de l'eau agricoles, qui ont été mises en place avec beaucoup de difficultés finalement à trouver une place dans un système qui était très centralisé, avec des textes qui affichent la décentralisation et la participation, mais une réalité concrète sur le terrain beaucoup plus mitigée, et une difficulté finalement à laisser la place à une gestion locale. Et juste, je voulais aussi revenir très rapidement sur cette question de l'intensification agricole et de la façon dont on avait un usage aujourd'hui extrêmement sous pression de l'eau. C'est l'idée aussi qu'il n'y a pas que les eaux du Nil, c'est-à-dire que l'eau est un flux entre aussi la surface et la profondeur, et il y a des pompages dans les nappes souterraines. Et plus on pompe dans les nappes souterraines, plus l'eau salée va entrer. Donc quand Wael parlait de la salinisation des sols, la salinisation des eaux se fait aussi via les eaux souterraines qui se transforment.
Eaux souterraines que l'on va pomper aussi dans ces grands projets d'aller chercher dans le désert pour cultiver, de détendre le delta vers l'ouest, notamment pour aller cultiver dans le désert. Alors juste un mot pour dire ce qu'on cultive dans le delta du Nil. Du fourrage pour animaux, donc le trèfle d'Alexandrie, du blé, et ça c'est surtout destiné au programme de subvention du pain par le pouvoir égyptien, du maraîchage, vous en parliez, oignons, pommes de terre, agrumes, la fraise aussi, dont vous disiez dans un article Delphine Acloque que c'était l'or rouge de l'Égypte, c'est le mot que vous aviez employé. Vous vouliez, Wael Rachid, ajouter quelque chose sur ce que venait de dire Delphine Acloque.
Oui, par rapport au fait que, effectivement, entre la gestion par le ministère des ressources en eau et d'irrigation et les usages, il y a aussi d'autres acteurs dont il faut tenir compte pour la question de l'eau, parce que pour bien redonner le contexte et appuyer là-dessus, il y a un ministère de l'eau et de l'irrigation, on n'a pas ça en France. Il y a en plus un ministère de l'agriculture en Égypte, qui est très important par ailleurs. Donc l'eau est un sujet pour différentes administrations et différents ministères qui n'ont pas forcément les mêmes d'ailleurs enjeux et impératifs. Donc il y a le ministère de la Culture, vous avez aussi le ministère du Logement pour le coup, parce qu'on s'est concentré, parce que c'est la principale utilisation de l'eau, c'est pour l'agriculture, mais vous avez les questions domestiques, les questions industrielles, qui ont des liens avec justement les questions de pollution de l'eau, en fait. Typiquement, les nappes phréatiques ou l'eau souterraine, elles sont polluées aussi par ce genre de choses, parce que l'eau s'infiltre, en fait, ce qui est une problématique qui touche donc les eaux d'irrigation, les eaux de drainage, les eaux domestiques, le manque d'assainissement. C'est un peu pour ça que Devine parlait, en fait, du fait qu'il y avait des grands projets, en fait, pour assainir l'eau. Et aussi, peut-être à rajouter un dernier point avant que vous passiez sur la question du développement dans le désert. Il faut imaginer qu'on parle de pollution de l'eau et de mélange, en fait. Mais c'est un mode industriel, enfin, c'est un mode de gestion de l'eau qui n'est pas spécifique à l'Égypte. En fait, vous avez toujours des formes de pollution, y compris en France. Quand vous avez des industries, par exemple, vous avez des rejets, des effluents qui sont contrôlés dans des eaux acceptables. Mais du coup, c'est pas pour dire que la situation de l'Égypte, elle est comparable en termes de contrôle et de qualité de l'eau. Mais rappelez qu'en fait, c'est un contexte, entre guillemets, de gestion qui est à peu près normal, sauf que le problème, c'est que vous avez une pression sur un approvisionnement pour l'eau du Nil, qui n'est pas la seule, qui est de plus en plus important.
L'an dernier, il y avait du riz partout ici. Mais aujourd'hui, on est obligé de planter d'autres cultures qui consomment moins d'eau, comme du coton ou du maïs. L'eau baisse et on arrête de cultiver du riz. Ça fait baisser les revenus des agriculteurs. La conséquence, c'est que le gouvernement devra tôt ou tard se mettre à importer du riz ou à en replanter. Ou alors, il faudra que des millions d'Égyptiens changent de régime alimentaire. Mais ici, on mange du riz tous les jours et depuis des siècles.
Des milliers d'Égyptiens devront peut-être un jour changer de régime alimentaire, dit cet agriculteur. Des milliers, je ne sais pas, mais en tout cas des dizaines d'agriculteurs, eux, ont dû changer de mode de production et de culture, puisque certains d'entre eux ont été envoyés, vous allez nous expliquer dans quelles conditions, Delphine Acloque, jusqu'où tout ça a été volontaire et avec quelles promesses, mais ont été envoyés beaucoup plus loin, dans le désert, en disant on va cultiver dans le désert, le delta, peut-être, je ne sais pas quels sont les mots employés par le pouvoir pour justifier cette politique et le projet Nouveau Delta, par exemple, qui a été annoncé il y a 4 ans par le président Sissi, dire on va transférer les eaux du fleuve vers le désert et on va se mettre à cultiver dans le désert. D'abord, quels sont les arguments qui sont convoqués pour ça? Parce que si d'un côté, le débit du Nil est devenu au fil des ans de plus en plus faible dans le delta, quel est l'argument qui pousse à dire qu'on va transférer cette eau-là dans le désert?
Alors en fait, le projet de mise en valeur, alors il y a beaucoup de débats hein, sur les termes à utiliser, ou de bonification du désert, de conquête agricole du désert, est à replacer finalement assez loin, au milieu du XXe siècle, lorsque Nasser prend le pouvoir à la suite de la révolution des officiers libres. C'est-à-dire qu'il y a un vrai objectif de modernisation du pays, et ça va à la fois dans les anciennes terres, avec une réforme agraire et une redistribution des terres aux paysans, mais aussi une modernisation qui voit dans les terres désertiques, longtemps jugées inutiles, longtemps lieu de la mort, de la violence, notamment dans l'Égypte pharaonique. Donc ces terres désertiques qui étaient en fait des espaces qui étaient parcourus hein, par les populations bédouines et qui n'étaient pas inutiles, mais en tout cas le narratif dominant a été celui de l'inutilité, de la nécessité de les intégrer au territoire et à l'espace utile. Et donc l'objectif, c'était aussi de s'extirper d'un delta où les différentes plaies, entre guillemets, que ce soit en termes de pollution, en termes de croissance démographique et urbaine. On n'a pas évoqué beaucoup cette question, mais il y a une vraie artificialisation des terres qui s'accélère, alors pas encore dans les années 50-60, mais de plus en plus dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc on perd des terres agricoles. Et donc, un des narratifs dominants, c'est puisque le delta est en train de rétrécir, allons conquérir des espaces sains, neufs, pour une modernisation agricole qui va permettre de faire entrer des revenus, puisqu'il va s'agir, par exemple, de produire des cultures à haute valeur ajoutée, exportables. Et donc, c'est tout un ensemble de politiques et de projets de construction. Alors, ça a d'abord été la Nouvelle Vallée, ça a été l'extension des marges du Delta. Aujourd'hui, c'est le nouveau Delta. Mais donc, on a une série de politiques extrêmement ambitieuses. Avec des résultats inégaux. Hein. Là, on n'a pas le temps d'évoquer les chiffres, mais effectivement, ces chiffres faramineux souvent sont bien au-delà. Enfin, les chiffres affichés faramineux sont bien au-delà de ce qui a été réellement mis en valeur. Néanmoins, on peut estimer qu'il y a à peu près 1,5 million de feddan. Alors, c'est l'unité égyptienne, c'est-à-dire à peu près un demi-hectare qui ont été conquis, ont été exploités sur les terres désertiques. Et tout à l'heure, on parlait du ministère de l'Agriculture. Pour la petite histoire, en fait, ce ministère, c'est le ministère de l'Agriculture et de la bonification des terres, ou de l'extension des terres. En anglais, on va appeler ça land reclamation, et istisla en arabe. Et donc, c'est partie intégrante, finalement, de l'agriculture telle qu'elle est conçue aujourd'hui en Égypte.
Et comment est-ce qu'on valorise des terres désertiques, Wael Rachid? Est-ce que ce sont de mauvaises terres de toute façon? Quelle technologie est-ce qu'on va convoquer pour cultiver ces terres-là?
Bah, elles n'ont pas l'avantage, par exemple, d'avoir eu du limon pendant des siècles et des siècles, voire des millénaires. Donc, en soi, on peut faire pousser beaucoup de choses dans le désert en apportant beaucoup d'intrants, beaucoup d'eau, mais c'est pas forcément la chose la plus évidente à faire, de faire pousser des légumes dans le désert quand même. Mais le souci, c'est un petit peu cette question des vieilles terres qui est mitée par l'urbanisation.
Ce qu'on appelle les vieilles terres, ce sont celles qui ne sont pas dans le désert justement, ce sont celles ont été cultivées depuis des siècles.
Oui, et qui surtout ne sont pas libres de droit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à beaucoup de personnes dans le désert. Vous avez des grands espaces qui peuvent être aménagés de manière plus simple, vous n'avez pas non plus une présence humaine importante. Donc voilà, mais après Delphine connaît mieux ce sujet-là que moi pour le coup.
On va mobiliser de l'eau aussi qui ne vient plus nécessairement du Nil, mais des eaux souterraines dont vous nous parliez tout à l'heure. D'une part, avec vous expliquez dans un article, je crois dans les années 2010, on dénombrait 852 puits d'1,50 m de profondeur jusqu'à 18 mètres de profondeur. Cette frontière agricole qui se déplace toujours un peu plus vers l'ouest, qui sont ceux qui ont accepté d'aller cultiver dans le désert. Hier, Sophie Lambroschini nous parlait dans le delta du Danube de l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Est-ce qu'on a là aussi un discours des promesses d'une nouvelle vie, d'enrichissement, et qui sont ceux qui ont accepté de jouer le jeu?
Alors en fait, il y a différents types d'acteurs de cette agriculture désertique. Globalement, on a des petits producteurs qui ont été poussés vers le désert parce que leur exploitation n'était plus suffisamment grande, parce que la succession entre les différents fils fait que progressivement les exploitations deviennent de plus en plus petites, mais aussi, surtout, et là il faut bien avoir cela en tête, c'est dans les années 1990, on a le processus de libéralisation foncière, ce qu'un certain nombre d'auteurs ont désigné comme la contre-réforme agraire, c'est-à-dire la libéralisation des prix du foncier et le fait qu'un certain nombre de petits paysans du Delta se retrouvent expulsés de leurs terres et sans terre. Et il va y avoir des politiques dites de compensation pour ces paysans. Alors, il ne faut pas imaginer que ce sont tous les paysans qui ont été compensés. Voilà, on est sur un pourcentage très réduit. On est sur une contrainte à la réinstallation dans le désert, d'une certaine façon, même si on vous offre 5 feddan de terre, une maison dans un village créé ex nihilo sur un secteur de bonification. Hein, voilà, donc tout cela est très très organisé, très maillé, avec des villages nouveaux qui sont ensuite entourés par toute une géométrie de parcelles où les producteurs donc qui ont quitté le désert et qui se sont vus allouer une terre, qui ont quitté le delta, pardon, et qui se sont vus allouer une terre dans le désert, eh bien, vont devoir s'adapter, vont devoir produire des plantes nouvelles, hein, parce que produire dans le désert, c'est souvent devoir changer de systèmes agricoles avec des vergers, par exemple, qui vont être beaucoup plus nombreux. Et ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes cultures, que ce n'est plus le même rapport non plus à l'autoconsommation. Et donc, ce sont des cultures commerciales, qui veut dire aussi la nécessité de s'intégrer dans des chaînes de valeur qui sont extrêmement sélectives. Et en fait, et c'est là où j'en viens à l'idée qu'on a d'autres types d'acteurs qui sont finalement les acteurs dominants dans le désert. Ce sont ceux qu'on peut appeler les agro-capitalistes, qui sont à la tête d'exploitations très grandes, tournées soit vers l'exportation, soit vers l'industrie locale, mais qui dominent. Et donc, on a un secteur agricole en lien avec cette conquête désertique qui a vu les inégalités se renforcer.
Ouel Rachid, en deux mots, les fellahs ont été progressivement marginalisés au profit des entrepreneurs.
C'était pour dire qu'en fait, dans une société où la solidarité familiale est encore très importante, en fait, demander à quelqu'un de partir de son village, c'est quand même aussi un espoir quand même assez élevé, en fait. Les gens ne partent pas de leur environnement social et familial comme ça, pour le coup. Et quand il y en a qui vont travailler à l'étranger, ils reviennent dans leur village, dans leur rue. Ils ne vont pas aller ailleurs.
Des diffusions de nouveaux modèles agricoles qui reposent en priorité sur des innovations techniques, fortement encouragées par ailleurs par les bailleurs de fonds en échange de leurs subsides, et des fellahs, donc les agriculteurs traditionnels progressivement marginalisés au profit des diplômés et des entrepreneurs, ce qui n'est pas sans laisser penser à la ville dont on va parler dans le focus dans quelques instants, la ville de Damiette, où les classes moyennes ont été de plus en plus marginalisées au profit, en tout cas pour les nouvelles villes construites près du Delta ou dans le Delta, au profit de spéculateurs et de promoteurs immobiliers. Nile Delta sur la compilation Mono Égypte sortie en 2020 et qui rend ici hommage aux airs traditionnels des communautés paysannes qui ont façonné le Delta, mené par le rythme d'un argoul, cet instrument très important dans la musique traditionnelle égyptienne qu'on peut comparer à une clarinette à double corps. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur les deltas. Aujourd'hui, le delta du Nil ou la conquête du désert. Les agriculteurs ne sont pas les seuls confrontés au changement de la topographie du delta. Les villes doivent faire face au changement climatique, à l'érosion des côtes et à une population toujours plus dense. C'est le cas de Damiette, ville de l'estuaire.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
C'est la 20e ville d'Égypte à peu près par la taille, une ville dont on ne parle jamais car l'intention se porte sur Le Caire, Alexandrie, Port Saïd ou Suez. Une ville difficile d'accès, 4h50 depuis Le Caire en train à une vitesse de 40 km/h étant donné la vétusté du réseau. Sinon il faut prendre l'autoroute. Damiette, ville estuaire, est aujourd'hui l'une des plus vulnérables du Delta. Bonjour Florian Bonnefoy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie, chercheur post-doctorant au CEDEJ à Khartoum, relocalisé au Caire. Le titre de votre thèse de géographie, c'est « Quitter le Nil » avec un point d'interrogation, vulnérabilité socio-environnementale et migration dans la région du Delta en Égypte. Comment résumer d'abord en quelques mots les vulnérabilités en question auxquelles doit faire face en particulier la ville de Damiette ?
Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, il y a une situation de multivulnérabilité du Delta dans son ensemble et de ses villes plus particulièrement, qui vont être des vulnérabilités à la fois environnementales, climatiques, sociales et économiques. Donc, d'un point de vue environnemental, vous avez déjà abordé dans la première partie de l'émission les questions de pollution et puis les impacts des barrages et en particulier du haut barrage d'Assouan. Mais après, il va y avoir à cela que se rajoutent les effets actuels des changements climatiques, notamment les vagues de chaleur, par exemple, qui impactent particulièrement les villes, mais aussi la montée des eaux, l'érosion. Et puis d'un point de vue social, des questions en lien avec la démographie en particulier.
Damiette, concernée par la montée des eaux, alors que c'est un fond d'estuaire, comme on dit, elle n'est pas directement sur le front de mer, mais elle a déjà, les pêcheurs de Damiette disent qu'ils ont vu s'inviter ces dernières années dans la Méditerranée des poissons de la mer Rouge, par exemple, et que donc ces perturbations parlent aussi d'une certaine forme de début de montée des eaux. Quelles mesures a pris le ministère de l'Irrigation déjà dans les années 90, je crois.
Oui, alors effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Damiette, même la ville-mère, n'est pas du tout située sur la côte, mais elle est située sur le Nil, plus dans l'intérieur des terres. Mais quand on parle de Damiette, en général, en Égypte, on considère la région dans son ensemble, qui va comprendre à la fois donc, la ville-mère, mais aussi les villages et villes sur la côte, tout le long de l'estuaire, et puis les villages aussi alentour. Et donc sur les villes et villages qui sont situés sur la mer Méditerranée directement, il y a déjà eu des mesures de protection côtière qui ont été mises en œuvre, par exemple à Ras El Bahr, qui est la station balnéaire qui se trouve en rive ouest du Nil au niveau de son embouchure. Les premières mesures de protection côtière ont été mises en œuvre dès les années 40, et c'était à l'époque en lien avec les barrages et le moindre apport de sédiments et donc l'érosion accrue de la côte. Et ensuite, ces mesures de protection se sont décuplées et elles comprennent différents types de protection d'infrastructures lourdes, notamment des brise-lames qui vont être parallèles au trait de côte, qui visent à bloquer l'assaut des vagues, mais aussi des enrochements sur le trait de côte lui-même avec des blocs de béton, mais aussi des digues, des jetées, etc. Donc tout un système en fait, de protection qui a été mis en œuvre par le ministère, notamment de l'irrigation et de la ressource en eau.
Et les habitants aussi, les riverains, s'y sont mis en trouvant leurs propres solutions. Chacun essaie de mettre en place des petits systèmes, peut-être en choisissant les essences végétales à planter.
Oui, alors il va y avoir des techniques plus vernaculaires d'adaptation aux changements environnementaux et climatiques, et notamment au risque d'inondation. Et l'une des techniques qui peut être employée, c'est celle de revégétaliser en partie son lopin de terre ou ce qui se trouve devant sa maison ou à proximité du fleuve ou de la mer. Et ça va être mis en œuvre soit de façon individuelle, soit il y a aussi des initiatives qui ont été portées par des projets. Par exemple, il y a un projet à Esbetelburg, qui est la ville de pêcheurs qui est située juste en face de Ras El Bahr dans l'estuaire, au niveau de l'embouchure, où il y a eu un programme mené par l'initiative Taquin, sous l'égide des Nations Unies, pour construire une bibliothèque et, municipale et un espace public qui soit avec une architecture compatible avec le risque d'inondation, et notamment en faisant un pavage perméable à l'eau, avec des plantes aussi qui résistent à la salinisation, etc., dans le but à la fois de lutter contre l'artificialisation des sols et donc de limiter les risques d'inondation, notamment de ruissellement, mais aussi de lutter contre les îlots de chaleur, puisque tout couvert végétal va en fait faire baisser la température et modifier le microclimat local. Et éviter ces augmentations de température.
Pour décongestionner cette fois la ville de Damiette et le delta dans son ensemble, le pouvoir égyptien avait fait construire dans les années 80 la ville nouvelle Damiette à quelques kilomètres de là, New Damiette. Combien de personnes y vivent aujourd'hui? 500 000 personnes étaient prévues. On disait que cette ville accueillerait 500 000 habitants. Ils sont combien aujourd'hui?
Alors, donc effectivement, le projet, c'était d'accueillir 500 000 habitants. Au dernier recensement, en 2017, il y en avait 50 000. Mais aujourd'hui, l'autorité des villes nouvelles estime qu'il y aurait 150 000 habitants à New Damiette. Et en fait, c'est qu'on va avoir à la fois des gens qui vont habiter, mais il y a aussi toute une série de constructions plus de type balnéaire, et donc des gens qui vont venir peut-être sans être enregistrés au recensement parce que ça va être des résidences secondaires. Et puis, il y a une forme de spéculation aussi qui est propre à un grand nombre de villes nouvelles en Égypte et avec des taux de vacances importants. Et puis, la ville continue en fait à grandir. Donc, cet objectif des 500 000 habitants, il n'est pas encore atteint. Mais en tout cas, c'est ce que visent les autorités.
Oui, j'ai appris en préparant cet entretien dans un article de Marc Laverne, le chercheur Marc Laverne, qui a travaillé sur cette ville de Damiette, qui explique qu'il n'y a pas de logement social locatif en Égypte et que pour New Damiette, les appartements construits font 100 à 150 mètres carrés pour lesquels il faut d'abord verser un acompte important, puis être tiré au sort pour s'acquitter d'un second versement et devenir alors heureux propriétaire. Donc c'est une ville qui est quand même réservée à une certaine classe sociale.
Oui, il va y avoir effectivement une série plutôt de villas ou d'immeubles de un ou deux étages qui vont être réservés à la classe moyenne supérieure, voire la classe plus supérieure égyptienne. Même si on reste sur une ville secondaire et pas sur les villes de la côte nord, par exemple, qui vont attirer plutôt les élites. En revanche, maintenant, il y a aussi des appartements, plus de logements sociaux qui vont être faits à destination de la population qui vit et travaille surtout à New Damiette, et par exemple des gens qui vont travailler dans des restaurants, qui vont tenir des magasins, etc., et dont vont avoir besoin les populations résidentes aussi.
Une ville d'inspiration corbusienne, à l'opposé de la vision de l'architecte égyptien Hassan Fathi, qui travaillait ses projets en fonction aussi des conditions locales, de la culture locale. Toujours, pour citer Marc Laverne, il dit que le choix de ces villes nouvelles repose sur un constat, celui que les villes qu'il s'agit de décongestionner sont irrécupérables. Tout effort de rénovation y serait du gaspillage. Et les villes nouvelles doivent être le creuset d'une nouvelle société, plus productive, acquise à de nouvelles valeurs, beaucoup moins fondée sur les liens de la famille élargie, ce qui rejoint ce que disait Delphine Acloque tout à l'heure sur les terres considérées comme inutiles dans le delta du Nil. Peut-être un tout dernier mot, Florian Bonnefoy, pour conclure, puisque dans votre thèse, vous posez cette question en titre. Quitter le Nil, est-ce que sont nombreux les habitants de Damiette qui ont quitté la ville?
Alors, à Damiette même, je n'ai pas de chiffres précis. Ce que je sais, c'est qu'il y a déjà aussi des gens qui vont avoir bougé de Damiette, la ville mère, vers Damiette, la ville nouvelle, pour avoir des conditions, ils disent, de meilleures conditions, notamment en termes de pollution, de décongestion, et de ne pas rester dans la ville mère qui est avec des petites rues sinueuses et qui disent surchargées. Et puis après, il y a des gens qui vont migrer de façon plus lointaine, soit vers le Caire, soit vers d'autres villes égyptiennes, soit vers l'étranger, mais qui vont choisir ici des filières en fait migratoires assez traditionnelles et qui se sont remobilisés aujourd'hui, mais qui se perpétuent.
Merci beaucoup, Florian Bonnefoy, d'avoir été avec nous pour nous présenter des résultats, des travaux de recherche que vous avez menés dans le cadre de votre thèse. Merci d'avoir été avec nous. Delphine Acloque, un mot sur ce que vient de dire Florian Bonnefoy. Est-ce que Damiette est la seule concernée?
Non, en fait, ce sont évidemment toutes les villes de la partie nord du Delta qui sont concernées. Et juste pour conclure, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est évidemment le bassin du Nil. Le Delta n'est que l'extrémité, et la nécessité de se replacer là aussi à une autre échelle, c'est la question de l'échelle du bassin et les enjeux géopolitiques avec ces projets de barrages, notamment en Éthiopie.
Merci beaucoup. Donc en effet, le bassin du Nil qui a fait l'objet de plusieurs émissions dans Culture Monde, et c'était passionnant avec vous de s'intéresser à une région dont j'ai l'impression qu'on parle moins, ce delta. C'est fascinant, les deltas, et je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de ce delta du Nil. Merci à tous les deux, Wael Rachid, doctorat à l'Institut français de géopolitique, et Delphine Acloque. Je rappelle la thèse que vous avez publiée chez Cartala l'année dernière, Conquérir le désert, recomposition des acteurs et des territoires agricoles en Égypte. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
Merci.
France Culture. La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Donald Trump a annoncé une trêve entre Israël et l'Iran. Pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur cette guerre, Catherine, plusieurs médias alertent sur le sort des Palestiniens qui a empiré en Cisjordanie comme à Gaza.
2 millions de Gazaouis tentent de survivre désormais entassés sur moins de 18% de l'enclave palestinienne, annonce le quotidien israélien Haaretz. L'espace vital se réduit, tout comme l'aide humanitaire, ajoute le journal de gauche, qui voit de plus en plus de zones marquées en rouge sur la carte de Gaza. Ce sont les zones déclarées interdites par l'armée israélienne, là où les bombardements sont annoncés et les évacuations conseillées tous les 2 ou 3 jours. Ces zones marquées en rouge par l'armée ne redeviennent jamais libres, souligne Haaretz. Haaretz. Les Gazaouis installent donc des tentes où ils peuvent, entre les ruines et des décharges à ciel ouvert. Pas assez de toilettes, parfois une pour 200 personnes, pas d'intimité dans les camps déplacés. Des fillettes et des femmes en viennent à éviter de boire pour ne pas uriner, alerte l'ONU et le quotidien israélien Haaretz, par crainte de faire leurs besoins en public. Puces, moustiques, rats prospèrent à Gaza, où les bombardements ont détruit le système d'égout, rapporte également Haaretz, et de relever une autre difficulté, des odeurs nauséabondes et toxiques de plastique brûlé par ceux qui parviennent à se procurer de la nourriture mais qui manquent de bois et d'espace pour cuisiner.
Et l'aide humanitaire ne parvient pas aux Gazaouis affamés.
La distribution de l'aide est devenue un champ de bataille, un piège mortel des Hunger Games, titre le quotidien israélien Yediot Aharonot et le média israélo-palestinien Plus 972 en référence à la série de romans et de films Hunger Games où des adolescents sont contraints de s'entretuer dans une arène moderne sous un régime totalitaire. Hier, 17 personnes à Gaza ont été tuées, 136 autres blessées alors qu'elles attendaient la distribution d'aide humanitaire, précise Haaretz, du nord au sud de l'enclave, dans la ville de Gaza et près de Rafah, ajoute Middle East Eye, mais aussi dans le centre, près du corridor de Netzarim. 450 personnes au total auraient été tuées près des nouveaux sites de distribution d'aide humanitaire gérés par les États-Unis sous surveillance de milices privées et de l'armée israélienne. Près de 3500 blessés, rapporte Haaretz. Des survivants racontent à Plus 972 avoir enjambé des cadavres pour s'emparer d'un sac de farine. Hamza, un Gazaoui de 23 ans, ainsi perdu son frère de 19 ans alors qu'ils étaient partis avant le lever du soleil près du corridor de Netzarim, dans le centre donc de la bande de Gaza, dans l'espoir d'obtenir de la nourriture pour leur famille de 5 personnes déplacées par les bombardements, raconte le média Plus 972. Mais dans le chaos de la foule, les frères se sont séparés. Hamza a réussi à s'emparer d'un sac de farine de 25 kilos et au point de rendez-vous qu'il s'était donné, Atem, son frère, n'était pas là. Son corps a finalement été identifié parmi les victimes de tirs israéliens cachés dans de hautes herbes, décrit Plus 972. Ses rêves d'ouvrir un jour un atelier de mécanique emporté avec lui. La Fondation humanitaire de Gaza a déjà nié ces fusillades. Propagande du Hamas, dénonce-t-elle dans les colonnes du journal israélien Mariv. Mais ce matin, une quinzaine d'ONG mettent en garde la Fondation humanitaire de Gaza contre une complicité de crimes de guerre. Ce nouveau modèle de distribution d'aide privatisée, militarisée, revient à un système déshumanisant et meurtrier, écrivent ces organisations dans une lettre ouverte citée par le Guardian. La farine manque tous les jours à Gaza et quand on nous annonce l'arrivée de camions, on fait le déplacement, mais il n'y a rien. Alors, on mange du sable, montre Mohamed Al-Darbi, un garçon de 12 ans, désespéré. Il répète devant la caméra de CNN qu'il n'y a pas de nourriture à Gaza. On doit manger du sable à la place de la farine. Le pain est trop cher. Ce jeune Gazaoui, qui a marché avec son père pendant 8 heures pour trouver un point de distribution de farine près de la ville de Gaza, a finalement pu en récupérer 2 kilos avant d'être dépouillé par des voleurs. Mohamed implore « Ayez pitié de nous », tandis que sa mère prépare du pain à base de restes de nourriture pour animaux, pour nourrir sa famille. De leur côté, Haaretz, le Times of Israel et le média israélo-palestinien Plus 972 accusent le Premier ministre Benjamin Netanyahou de laisser des gangs criminels précipiter un peu plus l'effondrement social à Gaza, en transformant l'aide humanitaire en armes et en donnant du pouvoir à des milices comme celle dirigée par Yasser Abu Shabab, un homme de 32 ans, originaire de Rafah et d'origine bédouine, autrefois emprisonné par le Hamas pour trafic de drogue, rappelle Puls 972 et le Times of Israel. Yasser Abu Shabab se présente désormais comme un garant de l'ordre dans le sud de l'enclave palestinienne. Mais selon Puls 972, ce n'est qu'une cheville ouvrière d'une guerre par procuration qui vise à instaurer des seigneurs de guerre et des clans à Gaza. Benjamin Netanyahou l'a admis, c'est sa stratégie pour contrer le Hamas et c'est ce qu'a confirmé l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, ainsi qu'une enquête du journal Haaretz. Photos et vidéos à l'appui, on peut y voir des membres de la milice de Yasser Abu Shabab dotés d'AK-47 pris au Hamas et redistribués avec l'approbation du cabinet de sécurité israélien. Les Palestiniens, également pris en étau en Cisjordanie cette fois, alors que le monde a les yeux rivés sur l'Iran, souligne Haaretz, et Plus 960 1972, la colonisation s'accélère et l'armée a fermé des accès pour les Palestiniens à l'intérieur des villes. Impossible quasiment de pouvoir accéder aux soins pour les familles palestiniennes malades en Cisjordanie.
Merci beaucoup Catherine Dutu.